En fait, ma question, c'est on peut très bien prendre conscience de certaines choses à un certain moment, et comment faire pour que cette conscience puisse perdurer, même si on est entouré d'un milieu qui n'a pas cette même conscience. Donc, c'est en fait renforcer sa émouna dans la galoute. Dans la galoute, dans un milieu qui n'est pas religieux, forcément.
D'abord, nous sommes en galoute, que ce soit même à Yerushalayim, même dans l'endroit le plus saint qui arrive. Tu étais aussi en galoute. C'est vrai que la galoute française est plus grande que la galoute yérusalamite. Yérusalamite. On est tous en galoute. C'est-à-dire qu'il y a des moments de conscience dans la vie. Après un séminaire où quelqu'un a reçu un très grand boosting en avant et a vu l'épreuve très clairement. Ou Yom Kippour. Et par exemple, à Yom Kippour, il y a un grand dévoilement de sainteté. Alors on prend sur nous des décisions. Ben, quelqu'un vient une semaine ici à la Yeshiva, il se renforce et voilà. Et il rentre dans le milieu où il est. Et plus ou moins rapidement, et plus rapidement que ce qu'on croyait, les décisions s'émoussent. Alors, de quoi ça provient et comment y remédier? Dans le monde Chol, quelqu'un voit un film terrible sur les méfaits de la cigarette, où on l'amène dans l'étage, la marhaka, comment on dit la marhaka en français, le département oncologique. Poumon, phase finale, où il voit les gens passer de l'autre côté à cause de la cigarette. Il est un grand fumeur. Alors quand il sort de là-bas, premier réflexe, c'est prendre une cigarette pour décompresser. Mais hop, normalement, si on a un niveau de conscience minimal, pas possible. Ayant vu très clairement, ayant vu. Le temps passe. Il sait très bien, il me fait rien à changer au niveau de la connaissance, mais au niveau de la sensation, au niveau du vécu. Entre le vécu et notre connaissance, il y a un fossé. Tous les fumeurs savent que c'est bien mal de fumer, tous les conducteurs ivrognes ou imprudents sur la route savent que c'est dangereux, tous les voleurs savent qu'ils vont se faire piquer un beau jour. Mais bon, entre la conscience et le vécu, quand il s'agit de Torah, comment faire pour renforcer notre conscience, comme si j'étais sans cesse dans la visite dans le département oncologique. Alors, il y a deux choses. La première, ce qu'on appelle le moussard. Le moussard, c'est tout simplement prendre des textes qui parlent du sujet dans lequel on est faible, par exemple, et qui nous rappelle, d'une part, la récompense extraordinaire, le gain, le mérite d'être dans la bonne voie, et d'autre part, le mal. Je sais que c'est mal, mais quand j'aurai devant moi des images parlantes, combien c'est extraordinaire, cette mitzvah, tu gagnes comme si, celui qui fait ça, et ta 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 ta, ça te booste. Si tu ne fais pas ça, au contraire, tu vas rater complètement. Une fois que tu as reçu un bon cours comme ça, une bonne lecture, et cette lecture doit se faire de façon imagée, parce qu'on veut toucher l'image, comme je suis en visite maintenant au département oncologique. Ça. Tu peux lire, moitié endormi, ça ne fait rien. Parce que une fois, j'ai donné à quelqu'un à lire un livre de Moussard basique, le livre de Moussard basique, on va dire, Messias Yesharim, le sentier des justes du Ramchal. Attends, comme beaucoup de gens, il n'a pas lu l'introduction, le premier chapitre. Bon, il m'a rendu le livre, il dit, mais je connais tout ce qui est marqué là-dedans. Bon, dans l'introduction, le rabbi écrit là-bas, je n'ai rien, presque rien Il se peut que quand quelqu'un lira dans mon livre, il n'y verra presque rien de nouveau de tout ce qu'il sait déjà. Mais tellement ces choses sont connues que l'oubli est fréquent. Au niveau de la connaissance, on sait. On sait que ce n'est pas bien de fumer, on sait que ce n'est pas bien de conduire quand on est ivrogne, on ne sait pas bien de ne pas faire Shabbat, on ne sait pas bien de fréquenter les filles, on ne sait que pas bien de faire bitoul Torah, on ne sait que pas bien de manger pas kasher, on sait que ce n'est pas bien de faire barrière. Tout le monde le sait, la théorie, on le sait très bien. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut renforcer l'image. Alors, dans le cadre du fumeur, c'est aller au département oncologique. Dans notre cadre, c'est nous créer un département oncologique d'image. Alors, ça peut être l'image négative ou l'image positive. Dans l'exemple, ça serait, tu prends voilà, des gens qui n'ont pas fumé, regardent comme ils vieillissent à 90 ans, à l'âge d'avoir 20 ans, il est bien, et l'autre, en comparaison, complètement tremblant comme ça. Bon, tu sais, quand tu vois ça très clairement à tes yeux, qu'est-ce que je suis en train de faire le crétin là, continue à fumer, c'est affreux. Ça, c'est Moussard. J'ai dit ici dernièrement, devant le micro, que c'était un Moussard qui est très parlant, c'est l'histoire des tzadikim. D'accord, quand tu parlais de tzadikim, comment eux, ils ont réussi, tenez le mitzvah tellement bien, il y a du merveilleux aussi. Ça nous touche énormément et on s'identifie, on a envie d'être comme eux. Le moussard positif, donc le boosting en avant, qui est d'habitude plus utilisé à notre génération parce qu'on n'est pas capable de recevoir trop de coups, on rentre dans la déprime, on dit t'es un nul, alors tu fais plus rien au contraire, regarde, quel extraordinaire être tu es quand tu fais cet acte-là. Tu arrives à des niveaux extraordinaires. Ah. Dieu t'embrasse, Dieu est amoureux de toi. Dans le ciel, les anges viennent, te disent, ils applaudissent, etc. Ah bon, allez vite. Encore. Il y a les méthodes négatives. Il faut utiliser les deux. On ne peut pas dire à quelqu'un sans cesse, t'es fantastique. Et il faut aussi un peu donner la menace négative. Mais savoir doser intelligemment. Trop de bien, tu commences à lever le nez, je suis baba salé, or tu ne l'es pas. Trop de coups, alors je ne peux rien, je ne vaux rien, et tu n'es pas non plus. Peu importe, ça c'est un truc que je vous donne, peu importe, un truc qu'il faut savoir dans la vie, peu importe où on en est, on sait qui je suis, quel niveau je suis, comment Dieu me considère, on s'en fout complètement. Dieu nous aime, ça c'est certain. Qui? À quel niveau que nous soyons, Dieu nous aime. Maintenant, nous devons optimiser notre avance au niveau maximal. Donc pour ça, il faut la carotte et le bâton. Donc d'ici, et plus de carottes que de bâtons. Des belles images, avec des images aussi un peu menaçantes. Un peu de bâton, beaucoup de carottes. Et optimiser. Celui qui a besoin de plus de carottes, plus de bâtons. Moussard. La Gonneville en a fait un cours dernièrement sur lui ici. Aussi grand qu'il était, que c'est pas humain. C'est du domaine de l'inhumain, d'accord? Le gars, le génie. Il disait un jour, pour lui sans moussard, piquar nefesh, danger de mort. Parce que notre niveau à nous, quand tu es pépère, pour lui c'est mort. Il faut être en état de la chaudière pour que je bourre. Et ça, si t'as pas un boosting continu, parce que nous verrons que le Yetzer Hara. Il se bat principalement sur le Moussa. Étudie la Gemara, étudie le Chumash, étudie tout ça. Le Moussa, parce que c'est ça qui change la personne. C'est très dur de tenir un programme de Moussa quotidien. Le Gonouvel te dit, si tu as un jour sans Moussa, piquar nefesh. Je lui ai amené un rav spécialement lui parler, c'est le Magui de Douvna, Rabbi Yaakov de Douvna. Un des grands du Moussa de l'époque. Spécialement venu chez le Gaon, pour il y a des choses que le Gaon. Qui est le Magui de Douvna par rapport au Gaon de Vilna? Magui de Douvna, c'est un nul, d'accord, avec tout le caveau de collier. Mais par rapport au Gaon, c'est rien du tout. Le Gaon, c'était génial. Alors qu'est-ce qu'il peut bien lui inventer? Alors quand on lit les écrits du Magui de Douvna, il prend des exemples, des métaphores, et paf, il pique avec, il trempe dedans, tu vois, tac, tac, tac. Il n'y a rien de nouveau. Il y a des images, des métaphores, des exemples, des choses qui te font comprendre, attention, là c'est du vent, tu oublies la vérité. On oublie la vérité, c'est un monde de mensonges, nous fait oublier la vérité. Le moussard nous remet dans la vérité. Donc, es-tu le moussard, comme dit le grand celui qui a lancé tout ce qu'on appelle la Tnouat Moussard, le mouvement du moussard en fait, il y a 150 ans un peu plus, Rav Israël Salanter, de Salante. À l'époque, il y a eu un grand débat dans les yeshivot. Est-ce qu'on a le droit d'arrêter maintenant l'étude de la Gemara pour faire une demi-heure de moussard quotidienne? C'était 20 minutes. Ça a fait une marloquette, une dispute terrible dans les yeshivot. Comment oser mettre? Il faut dire aujourd'hui, tout le monde a accepté. C'est terminé. Impossible de tenir sans moussard. Impossible. Donc je dis, et vous verrez que c'est très dur de tenir, parce que le Tzara, il le sait ça. Il sait que le Messie Tifarim, il écrit, si quelqu'un faisait son compte, il ne dit même pas quotidien, mais de temps à autre, son bilan. Pourquoi je suis dans ce monde? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Comment suis-je par rapport aux actes de mes ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Faire un bilan. Il dit, il n'y a rien qui tue plus le Yetzera que cela. Le Yetzera, il travaille sur ce que, comment il appelle ça, Pascal appelait cela, le divertissement. Il te divertit du but. Pas divertissement, aller au cinéma, ça aussi, d'accord, ça c'est le super divertissement, mais mon esprit est diverti du but. J'oublie. Je suis pris à autre chose. Mais en mitzvot, t'es occupé toute la journée à faire des mitzvot. Avec le Torah, quelqu'un qui fait des mitzvot de A à Z toute la journée. Il y a des moments où il faut s'arrêter, faire un bilan, comment on dit en français, mettre les pendules à zéro, remettre les pendules à l'heure. D'accord? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Où je vais? Pour qui je le fais? Où j'en suis? C'est extrêmement vivifiant. Non seulement Messie Charim dit cela, Rabbeinu Ari, Rabbi Hamvital, au nom de Rabbeinu Ari, il dit une heure par semaine minimum, et c'est lui qui dit ça, nous on devrait dire tous les jours, mais au moins une heure par semaine s'arrêter et penser au pourquoi et au comment de notre venue sur Terre, pourquoi nous sommes là, où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a rien de meilleur pour tuer le mensonge. Le mensonge, ça y est, etc. Quand tu vis une journée en galoute, comme tu dis, tu es assailli sans cesse de messages de mensonges, ça, nous sommes très perméables, ça rentre. Tu vois du mensonge partout, du mensonge. Tu vois une pub, c'est un mensonge. Le produit n'est pas ce qu'il est, ce qu'on vend, l'image qu'on te montre, c'est pas ça. L'image de kiff qu'on te veut te faire croire n'est pas non plus un vrai kiff. On te dit, prends ce produit, tu auras ce kiff. D'abord, c'est faux. Maintenant, est-ce que le kiff qu'on propose, c'est vraiment un kiff? Non plus. Qu'est-ce qu'on propose? Oh, la mazé, toujours. On sait. Oh, la mazé, il n'amène rien. Très momentané. Au contraire, il agrandit la soif. Plus t'en as, plus t'en veux. Tu deviens assoiffé, la langue dehors. Nous sommes assaillis sans cesse de messages de mensonges. Bosse, sinon t'es un nul. T'as pas un statut social, t'as pas un papier, t'es un nul. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Moi, je me rapproche de Dieu. Moi, mon but, c'est la vie éternelle. Un peu ici, rien. Je suis dur, mais c'est ça la vérité. On est en passage. Un type est venu un jour chez le Hafetz Chaim, un riche touriste d'Amérique. Hafetz Chaim habitait à Radin, en Pologne, et c'était le most grand rabbin de la génération. Avec Roi Hakodesh, grand en tout. Il rentre, il est complètement ébahi. Il voit une table branlante, il voit l'armoire qui va à peine, qui tient debout, les murs tout pelés. I will pay you. Je comprends pas, je fais un chèque. Il a un cours d'arabe, je comprends pas. Comment? Vous le dolador, vous n'êtes pas comme ça un peu. Des conditions de vie un peu mieux. Hafetz Chaim lui dit, et toi? Qu'est-ce que tu as ici avec toi? J'ai ma valise. Et qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Trois paires de culottes, quatre chemises, un costume de rechange, un brosse à dents. C'est tout? C'est tout ce que tu as? Ah non, mais attention, moi je ne suis pas chez moi. Moi je suis ici en passage. J'ai à New York. Venez, un cottage. Long Island, tout ce que vous voulez, grand, à Miami. Moi aussi, je suis de passage. J'ai aussi mon cottage là-haut. On est de passage. l'occasion de rentrer quelquefois chez le Rav Steinman, je recommande. Non seulement pour voir le Rav, mais voir sa maison. On parle de Gdol Hador, un des trois, quatre plus grands hommes de la génération. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Et je suis pas gâté, je suis pas un homme difficile. Ici, la Yeshiva, c'est le Hilton par rapport. C'est stupéfiant. La simplicité, rien. Le matelas modèle, il y a 40 ans, les murs n'ont pas été, c'est du béton encore, du béton comme c'était, il a reçu il y a 40 ans aussi, 50 ans, 60 ans, je sais pas. On va voir un grand Israël, comment il vit. Il n'est pas ici. Il n'y a rien à faire, la table soit un peu plus comme ça. Voilà. C'est pas notre niveau à nous. Mais on doit tendre vers, savoir que c'est le mensonge. Comme je l'ai expliqué l'autre jour, on fait une désintox. Donc, lentement, lentement, lentement. Savoir, on est dans le mensonge. Le moussard, il nous aide à nous remettre à l'heure. Maintenant, il y a une deuxième chose qui casse tout l'entrain que nous avons. Notre âme est amoureuse de Dieu. Quand l'âme brille, si quelqu'un sentit Shabbat très puissamment, ou Yom Kippour, ou des moments, des fois, on a comme ça une sorte de révélation d'amour de Dieu, de la Torah, du peuple d'Israël, des choses qui sont très spirituelles, très profondes, très au niveau sentimental, le vécu est très puissant. Et ça part. C'est aussi un très grand moussard. Parce qu'au lieu de voir des exemples, je vois en vrai. Je sens maintenant, dans Olam Hazeh, Olam Haba, c'est marqué Shabbat par exemple, c'est marqué Men, quelqu'un peut savoir quelle est sa situation dans Olam Hazeh, comment il vit Shabbat. Si Shabbat il vibre, ça veut dire qu'il est dans Olam, il a quelque chose dans Olam Haba, parce que le Shabbat c'est Men, c'est une sorte Men, comment dire, traduit en français, Men, ça ressemble à Olam Haba. Le Shabbat ressemble à Olam Haba. Donc quand tu vibres Shabbat, c'est-à-dire que tu as en toi une fibre qui est sensible au spirituel, parce que Shabbat, il n'y a rien d'extraordinaire au niveau matériel. C'est pas parce qu'il y a une nappe blanche et deux bougies allumées que quelque chose a changé dans ta vie. Or, tu sens que tout est différent. Le Midrash dit que la tête est différente. La différence, vraiment, quelqu'un qui vibre le Shabbat, il vibre. Il a une autre tête. Ma fille m'a raconté qu'elle a dans sa classe une fille, les parents sont des chassidim. Le père, chaque Shabbat, quand il fait kiddush, il éclate en sanglots, de vibrations. J'essaye, j'arrive pas, d'accord, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais c'est extraordinaire. Qui douche, c'est sanctification. Tu sanctifies. Dieu vient, c'est Shabbat, c'est le nom de Dieu. Il est là. Quelqu'un qui sent maintenant la présence de Dieu qui vient à ce point-là. Alors, c'est un très haut niveau. Mais alors, quand on sent un peu, ça veut dire que tu as déjà une place dans l'âme là-bas. Donc, c'est plus que le moussard, c'est pas avec des images, c'est dans la réalité. Si nous pouvions trouver le truc qui fait que les moments de vibration sont le plus fréquents possible et les plus puissants possible, on a gagné le gros lot. Vu que le mensonge me vend, c'est vrai qu'il fait un matraquage. Je fais un matraquage contre. Avec la vérité. Lui, un matraquage de mensonge. Un matraquage de vérité, donc. C'est certain qu'on est gagnant au bout d'un moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour amplifier ces moments? Ces moments s'appellent Kedusha, sainteté. Sainteté, la Kedusha. Et la Kedusha ne peut que s'atteindre par ce qu'on appelle les mitzvot. Mitzvah, ça veut dire union. Quand je fais un acte que Dieu demande de faire, je me branche avec lui, je fais sa volonté, je me branche avec lui. Je suis un réalisateur de sa volonté. Je me branche avec lui. Puis la mitzvah est faite comme il se doit dans l'halakha, dans le cadre matériel, et puis elle est faite dans le cadre de la kavana, de l'intention qui est faite, plus elle est pure, plus on la fait avec amour, plus on le fait pour la mitzvah, pas pour seulement le mérite, pour la mitzvah par amour, plus elle brille. Une mitzvah qui est très brillante et qui purifie énormément, l'étude de Torah. Une autre mitzvah, Shabbat, Tfilin, le Chesed, le Tzedaka, ça donne beaucoup aussi. Et bien sûr, la chose qui éteint la lumière, c'est les péchés. Le péché qui fait le plus rapidement partir notre niveau de sainteté, c'est quoi, à votre avis, hein? La colère, très bien, la colère. C'est terrible. Rabbi Chaim Vital dit, donc le plus grand kabbaliste de tous les temps, Rabbi Noari, il dit que lorsque tu te mets en colère, ton âme sainte part, à la place vient une âme impure, provenait que nous disons en français, j'étais hors de moi. C'est qui le « je » qui est parti hors de toi? Ben, il y a un « toi », c'est le corps, et le « je » il est parti hors, et qui est venu à la place, oui, oui, oui. Un fou, provenait que t'as dit des mots complètement fous, t'as fait des actes complètement fous, un fou, un type dangereux, c'est l'âme de l'impureté qui rentre à la place. Alors, il dit, Rabbi Chaim Vital, il dit que l'âme qui est repartie, elle repart avec toutes les mitzvot que t'as fait. Alors, deux façons de comprendre. La façon de comprendre que les gens comprennent d'habitude, et j'espère que ce n'est pas la bonne, c'est que tu n'as plus rien. Tout ce que tu as fait ne vaut plus rien. Tu arrives au Lamaba, tu as travaillé toute ta vie, tout ça, le dernier jour tu t'es mis en colère, tu n'as plus rien. Alors, Israël Salanter, donc ce grand Moussa, raconte un exemple d'une chose qu'il a vue de ses yeux. Il y a un homme vieux. Les hommes vieux, s'ils n'ont pas travaillé leur colère, ils sont extrêmement irascibles. Rien ne les met en colère. Quoi surtout les enfants? Un enfant, c'est un morceau de Yetzirah qui sert à mettre en colère les gens. Hein, c'est ça, peut-être le rôle des enfants sur Terre, en ce qui nous concerne, dans notre... Parce que toi, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des limites, et eux, ils dépassent les limites. Je peux supporter, je ne suis pas le supporter, il y a un seuil, ou ça, ouais. Mais l'enfant, il est enfant. Il n'a pas de date, il n'a pas de conscience. Donc il fait des trucs complètement fous. Il va sur le parapet du balcon au sixième étage, et il lance des pierres sur les voisins... du huitième étage, et il fait des trucs complètement. C'est un enfant, il joue avec le feu, il allume les rideaux, il s'amuse. Bon, tu peux dire tu deviens complètement fou, un gosse, il te rend fou. C'est pour ça qu'on a les enfants, pour travailler. Un grand rabbi, l'Archer, il a dit que nos enfants à nous savent exactement jouer sur la corde, comme ça, la corde sensible, d'accord? Ni pas trop, ni pas assez. Là où il faut travailler, ce sont des bons envoyés de Dieu. Nos enfants sont les meilleurs envoyés que Dieu nous envoie pour nous travailler la colère. Et notre femme aussi, d'habitude aussi. Et réciproquement, le mari pour la femme, bien sûr. Alors, cette vieille personne agonisait. Elle était sur son lit en train d'agoniser. Les enfants montaient avec des échelles, sur la fenêtre, et tapait, tac, 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 et s'enfuyait en partant. Et lui, agonisant, à bout de force, il se lève encore, ouvre la fenêtre, et il les engueule, bande de chenapans, tout ça. Et dans 2 heures, t'es plus là. À ça, tu penses. La colère, ça nous fait des trucs complètement fous. Complètement fous. Combien de gens se sont suicidés? Moi, j'ai vu un... C'est un endroit, la maison en face, un type, il a pris de l'essence, il s'est brûlé, lui, sa femme, ses enfants. Ma boule. Colère. On fait n'importe quoi. Alors, quelqu'un de ce type-là, que le jour de sa mort, il se met en colère comme ça, au point de faire des actes qui sont tout à fait inconsidérés, parce qu'un peu de colère, un peu, c'est pas grand-chose. On parle maintenant que vraiment, tu es hors de toi. Nous dire à Benoît Harry, t'as tout perdu. Non, là, là-bas. J'espère, je pense que ce n'est pas le vrai sens de ce qui est marqué. Ce que je pense, à mon avis, c'est que le niveau de proximité de Dieu que tu as, les mitzvot que tu as fait toute ta vie, elles sont dans le compte banque, pas en Suisse, mais là-haut, et personne ne peut te les prendre. Tu as fait une mitzvah, elle t'appartient, point. Le seul qui peut reprendre, c'est toi, si tu regrettes. Quelqu'un qui fait tchouva à l'envers. Il regrette une mitzvah qu'il a fait, il dit dommage que je l'ai fait, alors on l'enlève du compte. Comme une avéra, quelqu'un qui fait tchouva sur une avéra, on enlève du compte, mais mitzvah aussi.
On dit aussi, par exemple, que quand quelqu'un fait du lachonara sur soi, alors.
On... Ça aussi. Lachonara, on fait lachonara sur quelqu'un, c'est Chot Elvot qui dit ça. Il dit tes mitzvot passent chez lui, ses avérot passent chez toi. C'est terrible. Lachonara, on fera un cours à la Binéder. Rav Barjet, je lui ai demandé de préparer une série de cours sur la Shonara un peu, parce que c'est un grand fléau. Donc, à part ces cas spéciaux, on fait tchouva à l'envers ou la Shonara, les mitzvot qu'on a fait nous appartiennent, point. Tu t'es mis en colère, elle reste quand même. Alors, ça veut dire quoi? Rabbi Noari dit que toutes les mitzvot que tu as fait te quittent. Ça veut dire que le niveau spirituel que tu as de proximité de Dieu, que tu es sensible à Dieu, tu fais la prière avec intention. La prière, c'est un très bon indicateur aussi, comme le Shabbat. Quel est ton niveau de proximité? Quelqu'un qui il met le branchement, il veut prier, et il n'y a rien qui passe. Il n'est pas branché. Et c'est très courant, parce que c'est très dur. Mais quelqu'un dans la Torah jour et nuit, s'il n'y a pas un... on ne va pas cultiver notre branchement avec Dieu sans cesse, et bien ça se débranche. Ça se débranche. Et la prière, c'est un très bon indicateur. Parce que tu parles à Dieu et tu ne sens pas. Alors pourquoi tu ne sens pas? Parce que tu ne parles pas. Tu dis les mots, mais il n'y a rien. Il est où Dieu? Qui c'est Dieu? Pourquoi? Comment? Où suis-je dans cette histoire-là? Donc nous pensons que le vrai pshat dans Rabbi Noari est que ton niveau de proximité de Dieu, que tu avais grâce aux mitzvot que tu as fait, la kedusha, la sainteté, etc., tout cela fait que tu es proche de Dieu, tu es sensible à Dieu. Tu mitragesh, tu t'émeus facilement pour les choses de divinité. Il y a une sensibilité, une sentimentalité exacerbée de tout ce qui est spirituel. Aussi, tu as des pulsions d'attirance pour tout ce qui est Torah et mitzvot, etc. T'es vraiment, tu cours. Quelqu'un se met en colère, parti. Il faut prendre tout à zéro pour gravir les échelons et revenir à cette proximité. Combien de temps? Rabbi Noari, il dit beaucoup de temps. Il dit il faut beaucoup d'efforts. Enfin, il faut beaucoup d'efforts pour revenir. Alors, comment l'effort? Alors, nous, se concentrer en prière, faire une grande tchouva, toutes les choses qui nous enlèvent l'impureté et amènent la pureté. Enlèvent la touma et amène la kedusha, la sainteté. C'est la mitzvot, c'est la tshuva, l'étude de Torah avec beaucoup d'empressement, la prière. Donc en résumé, pour répondre à ta question, il y aura deux moyens. Le moussard quotidien, avec le bilan le plus souvent possible, et les actes qui nous rapprochent de Dieu au niveau spirituel. Ce sont les mitzvot, la prière, la tchouva. En grand. Voilà. Quoi d'autre? Éviter, bien sûr, le matraquage du mensonge. La colère fait partir la kedusha, mais tu regardes une fille qui n'est pas ta femme. Ça attire. Ça attire quoi? L'animal. L'animal, d'habitude, le taureau qu'on a en nous, si on ne l'excite pas trop, il reste tranquille. Mais quand on fait passer devant lui sans cesse des vaches en train de danser, le taureau, qu'est-ce qu'il devient? Quelqu'un m'a dit une fois, je lui ai dit, j'explique quand même un taureau en lui. Non, moi je n'ai pas un taureau, j'ai une manade. Qu'est-ce que c'est une manade? Il m'a dit, une manade, c'est des troupeaux de taureaux qu'il y a en, on appelle ça, la région près de Marseille, là-bas, l'ouest de Marseille, là, la Camargue. Voilà, en Camargue, il y a des manades de taureaux. Moi j'ai une manade. La manade, on peut la calmer. Mais si tu vas au cortège de vaches toute la journée, elles te font des meux, d'accord? Que fera la manade quand elle verra des vaches? Eh bien, il s'excite. Va calmer un taureau. Il faut être un fin matador. Très difficile. Donc, il faut éviter. Il faut... Que faire en France? J'ignore. Pour moi, je dis là très clairement, c'est une incompatibilité absolue d'habiter la France et protéger ses yeux. Donc, être un bon juif. Comment on fait? Pour moi, les juifs qui arrivent à être juifs là-bas, ce sont des magiciens. Je ne sais pas comment ils font. Voilà. Que Dieu ait pitié de nous et d'eux. Baruch Hashem, la galoute finira bientôt. Et voilà. Il est certain que les Sahara, on est à l'époque pré-messianique, les Sahara dévoilent toutes ses cartes pour retarder, pour attraper le maximum qu'il peut. Et alors, il dévoile ses cartes. Je crois qu'on n'est jamais arrivé à un niveau de tout voir par tous les moyens. Aujourd'hui, tu as les portables troisième génération. T'appuies un bouton et on m'a dit que 30% des hommes trompaient leur femme avec Internet. C'est quoi? C'est pas qu'ils fréquentent d'autres filles sur Internet. Ils regardent Internet, ça suffit déjà. Sa femme devient beaucoup trop inintéressante par rapport à ce qu'il y a sur Internet. Donc, il dévoie toutes ses cartes. Il est fort. Donc, celui qui tient bon, alors il est un super géant aux yeux de Dieu. Il peut se croire très petit. Racontez ça, je vais le répéter, c'est important que les gens le sachent. Rabbeinu Ari, celui qui dévoilait toute la Kabbalah, c'est-à-dire moderne, il y a 500 ans, à son élève Rabbi Chaim Vital. Il lui a dit, Rabbi Chaim, mon élève, sache, les actes que tu fais sont aussi grands que Rabbi Akiva, ceux de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui vivait il y a 2000 ans. Qui est un des grands hommes que la terre a connu, parce que Moïse monte au haut du Mont Sinaï, en Midrash dit qu'il voit Dieu en train d'attacher des couronnes aux lettres de la Torah. Il dit, pourquoi tu mets des couronnes? Et que sur les lettres, il y a des sortes de petits, des zaïnes comme ça, des petites lettres zaïnes comme ça, les couronnes. Il dit, viendra un homme qui s'appelle Rabbi Akiva, et qui pour chaque couronne va innover, va apprendre des tas et tas de halachot. Il va être tellement grand en Torah qu'il va puiser de la Torah écrite tous les enseignements de la Torah. Alors Moshe dit, ben, si lui il est tellement grand, ben, peut-être lui mérite plus que moi de donner la Torah. Pourquoi moi Moshe? Il répond, effectivement, tu as raison Moshe. Rabbi Akiva est plus grand que toi. Alors que lui donne. À la bonne heure, comme ça, moi j'ai pensé au début, dès Bereshit, je pensais que ce serait toi et pas lui. Donc ça reste comme ça. Mais c'est effectivement, au niveau absolu, Rabbi Akiva est plus que Moshe. Mais Dieu veut Moshe, que soit Moshe, et pas Akiva, pour raison X qui lui appartient à Dieu. Béni soit-il. Rabbi Akiva est donc plus grand que Moshe. C'est le top. Rabbi Noari dit à son élève Rabbi Chaim, tes actes sont aussi grands que ceux qu'Rabbi Akiva. Rabbi Chaim, c'est pas un idiot. C'est Rabbi Chaim Vital, il a écrit tout la Kabbalah. Rabbi Noari a enseigné, Rabbi Chaim a tout écrit. C'est la grande mystique juive, profonde, c'est un grand, etc. niveau. Il dit, mais je sais bien qui je suis. Je connais mes faiblesses, je connais mes problèmes. Rabbi Akiva, je sais aussi qui il est, Rabbi Akiva. Il n'y a pas photo. Il répond, Rabbi Noari, tu as raison. Si on prend les mitzvot qu'a fait Rabbi Akiva, on prend les tiennes, t'es un million de fois moins. Mais sache qu'à notre génération, les clipotes, les forces du mal, d'obscurité, se sont tellement amplifiées, épaissies, que la petite lumière que tu fais, qui est un millionième de Rabbi Akiva, elle fait autant d'impact que Rabbi Akiva. Prenons un exemple plus simple. Tu vas dans l'obscurité, tu allumes une bougie, elle est claire, elle est claire. En plein jour, tu prends cette même bougie, on ne voit rien du tout. Pour ressentir le même effet de lumière que fait la bougie la nuit, il faut un projecteur qui fait 500 watts. 500 watts égale une bougie. Maintenant, tu prends au niveau de luminosité les 500, l'ampoule de 500 watts et la bougie, c'est un million de fois plus, ou quelque chose proche de cela. Exactement la même chose. Et pour Rabbi Akiva, il y a le temple, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Rabbi Akiva, ok. On est en pleine journée, alors lui c'est un grand projecteur, très bien. Toi aujourd'hui, avec l'obscurité qu'il y a, ta petite lumière, elle équivaut Rabbi Akiva en luminosité. Et Dieu ne regarde pas si tu es un projecteur ou une petite bougie, il regarde la luminosité que tu fais. C'est ça qui compte, le résultat. Donc toi, tu as le même résultat que Rabbi Akiva. Attends, messieurs, Rabbi Noari, il a dit ça à Rabbi Chaim Vital, il y a 500 ans à Tzfat. Tzfat, la ville sainte. Pourquoi est-ce que les grands kabbalistes à l'époque se sont tous installés à Tzfat? C'est la seule région d'Israël où il n'y avait pas, dans les 40 km autour, aucune église. C'était une pureté. Que si nous, aujourd'hui, on est à Tzfat, on s'asphyxie par la pureté qu'il y a là-bas. On ne pourrait pas. Qui y avait? Il y avait une ville peut-être de 2-3 000 habitants, parmi eux, Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Marie Bérave, son rave, le rave de Rabbi Yosefka. Rabbi Moshe Cordovero, le rave de Rabbi Noari en Kabbalah. Rabbi Noari, Rabbi Chaim Vital, le Hacher HaKadosh, un des seuls hommes qu'on appelle HaKadosh, le saint. Il fait le commentaire sur la Torah, Hacher HaKadosh. Rabbi Le David Dash, l'auteur d'un des plus grands livres de Moussar, le Rashi Trochma, qui est encore là-bas. Rabbi Shlomo Elkabet, celui qui a écrit l'Echadodi. Ce que je me rappelle comme ça, vaguement, tous à la même génération. Des géants de sainteté que aujourd'hui nous vivons de leur bouche. Tout ça à Tzfat, la ville sainte. Là, tu mettais le doigt là-bas, tu sentais la couchette dans le doigt. Et Rabbi Noari dit, à notre époque, à Tzfat, l'obscurité s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup épaissie. Le petit acte que tu fais, Rabbi Chaim Vital, il est grand comme celui de Rabbi Akiva, comme un projecteur de 500 watts. Alors je vous pose la question, celui qui met encore les tefillines aujourd'hui à Paris, qui il est? Qui se retient de regarder une fille un moment à Paris, quel mérite il a? Et c'est évident. Nous dit Maïmonide, dans le 7e chapitre des lois de Tshuva, la Torah a promis qu'à la fin des temps, il y aura la Géoula. Et Israël ne peut être sauvé, la Géoula peut venir que s'ils font Tshuva. Mais vu qu'elle a promis qu'il y aura la Géoula, donc il y a une promesse qu'on fera Tshuva. Ces personnes aujourd'hui, dans le monde entier, et principalement en France, qui est un des grands centres de Tshuva mondiaux, qui dans l'obscurité innommable qu'est la France, l'enfer, arrive à être des soldats de Dieu. Ce n'est pas des soldats, c'est des bombardiers B-52, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, des F-16. C'est des... La petite lumière que tu fais, elle a un impact énorme. Quand tu lis l'histoire de la génération passée dans la Shoah, ou avant encore sous Staline, les bolcheviques, etc., ou sous les Cosaques, j'ai lu dernièrement. Une histoire terrible, terrible. J'ai lu hier, je raconte une histoire. Hier soir, j'ai lu une histoire. Le Rav Pinchas de Koret, c'était un des grands admorim de la Chassidoute. Il avait un fils qui a ouvert une imprimerie. Et lui-même a une imprimerie d'écrits juifs. Lui-même, il a formé les lettres, des très belles lettres comme ça, et très bonne qualité, rapidement. Tous les écrits juifs fabriqués chez lui, et il a fait une fortune énorme. Et deux de ses fils ont hérité. Et ils avaient l'imprimerie Shapira. Un jour, a été découvert dans la synagogue, le gabaï, le bedour dans la synagogue, avant Mincha, et il voit pendu dans la synagogue un juif, employé dans une imprimerie qui était concurrente. La police du Tsar vient. Une petite enquête, il était très dépressif. Donc, il a dû se pendre, c'est un suicide. Voilà, terminé. Affaire classée. La police du Tsar et un certain curé, dont j'oublie le nom, grand antisémite, font ressortir le dossier et disent non, il s'agit d'un assassinat. C'est les deux frères Shapira, donc possesseurs, propriétaires de l'imprimerie, qui ont fait ce meurtre. Une histoire abominable. Tout prouve que non. Ils sont mis en prison. 4-5 ans dans des conditions de prison terribles avant que sorte le psak din, la décision du tribunal, qui décide de mettre sur la famille de l'imprimerie et il doit partir 20 ou 30 ans de travaux forcés en Sibérie. C'est-à-dire une mort certaine. Le curé, apprenant cela, dit, un des préposés à la loi à Moscou là-bas, il voit le psak din, la sentence du tribunal, il dit, mais c'est insuffisant. Il rajoute, ils recevront aussi 1500 coups. C'est des deux personnes déjà âgées, les cheveux blancs, avec les péotes. On les sort, il y a une rangée de 500 soldats, chacun avec des gourdins, et doit faire trois fois l'aller-retour. Au milieu, un s'arrête parce que sa kippa est tombée. Il reçoit des coups, il s'arrête. Parce que quelqu'un a eu pitié de lui, la kippa lui a mis sur la tête. Il continue comme ça. Ils ont été en Sibérie. Ils sont restés environ 15 ans. Que lorsque le tsar est décédé, l'héritier est venu, l'héritier a donné les a graciés. Bon, qui de nous aurait pu supporter un millième de ça? Mais Dieu donne des forces à chaque génération pour que les hommes arrivent à être juifs dans les conditions qui concernent leur âme. On peut dire en gros aujourd'hui, à part la mandure des Katyusha ou des bombes qui éclatent ici en Israël, en gros, on est dans le coton. On n'a pas d'épreuve où c'est la vie ou la mort pour rester juif. Et Sarah a trouvé un système beaucoup, beaucoup plus percutant. Pourquoi elle est dure? 2000 ans, t'es dur avec les juifs, ils sont durs aussi, ils tiennent bon. Voyons en douce. Va amener les filles. Christine, le système des Christans, Christian et Christine. Et tous les bons juifs, patatras. Hello! Patatras. Depuis la Shoah, on a perdu 2 fois plus de juifs dans les bras de Christine que pendant la Shoah. 6 millions de juifs morts dans la Shoah, au moins 12 millions de juifs assimilés depuis la Shoah, au moins. À quoi ils apportent encore ici, en Israël? Celui qui va résister, je parle de Christine, mais même pas regarder, parce que regarder, ça impurifie, ça t'éloigne de Dieu, c'est l'antithèse, c'est le système de Dieu, etc. Donc, système D, nous on veut système Dieu. Alors, c'est l'antithèse. Qui résiste? Celui qui résiste dans ces conditions. Alors, c'est pas un rabbi à qui va. C'est pas un rabbin Chaim Vital. C'est une armée de lumière. Et moi, je suis convaincu que le signe le plus évident comme quoi c'est incessamment sous peu que nous, la grande Géoula arrive, la grande rédemption, bon, à part que la géopolitique nous le crie de façon très très claire, le fait qu'il y ait une grande chouva dans le peuple d'Israël. Il faut savoir que chaque juif aujourd'hui qui arrive à résister, c'est énormément de mérite. C'est une lumière énorme. Et il y a des chutes. Mais c'est normal. Il faut chuter. C'est marqué Sheva et Pot Sadik Vakam. 7 fois le Sadik qui tombe et il remonte. C'est pas 7. 7 c'est un cycle. C'est cyclique. On ne peut pas monter sans cesse. Alors on tombe et on remonte. Et quand on remonte, on fait Tshuva. Donc on répare tout. Il est normal qu'on tombe. Mais quand on remonte, et il faut remonter, alors c'est un impact énorme. Hachem, comme ça, on va savoir que la descente en Galoute est nécessaire. C'est-à-dire que la baisse, mais on peut remonter et Dieu aide. Le début de Shaar HaTshuva, je vais finir avec cela, le début de Shaar HaTshuva. Shaar HaTshuva, c'est le must de la Tshuva, du livre de Tshuva qui est écrit par Rabbeinu Yonah il y a 800 ans. Il dit que lorsque quelqu'un fait Tshuva, Dieu lui donne des forces surnaturelles. Surnaturelles. Naturellement, on ne pourrait pas résister à des choses pareilles. On devient surnaturel, des anges. Il faut donner un peu, fais un pas, la Tshuva c'est l'ascenseur. Sans étage, tu ne peux pas monter. À pied, sans étage, tu 50e étage, tu t'évanouis. Là, il y a un pas à faire. Tac, monter dans l'ascenseur, tu ouvres au 100e étage. Le pas, c'est à nous de faire. Le reste, Dieu y fait. Baruch Adonai, Olam Amen.